donc, pour la dernière présentation de cette journée, j'ai le plaisir de donner la parole à Joël Lemarec et Nicolas Sauré qui vont nous parler d'un projet qui est déjà bien engagé, voire
fini,
achevé, voilà, sur les spectacles. Sur plutôt le spectacle en ligne, si le pluriel porte sur ligne et non pas sur spectacle. Et je leur laisse tout de suite la parole.
Merci. Alors juste le titre, voilà. En fait, donc Nicolas va présenter ce projet qui s'est achevé, qui était dans une ANR Corpus en 2012. Mais le titre, donc, on a souhaité dire, bon, c'est... Il y a une collecte, il y a un corpus, enfin, ça a vocation d'être des archives. C'est aussi, derrière, il y a des enjeux de médiation de la part de structures culturelles, enfin, théâtre, opéra. Et donc, dans l'espace d'un projet de recherche avec des partenariats, enfin, avec des structures culturelles, du coup, pendant plusieurs années même, il peut y avoir... une certaine indétermination, un certain flottement et du coup une intense réflexivité sur ces frontières entre corpus, archives, collecte, médiation, et c'est ce qu'on voulait vous présenter en retour sur notre projet plutôt que de présenter tous les résultats qu'on a eus.
Sachant donc que cette réflexivité, elle s'est un peu... agit un peu comme un oignon. Enfin, on a eu des couches de réflexivité successives au fur et à mesure du projet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle continue de s'épaissir au fur et à mesure des présentations et des problématiques à travers lesquelles on regarde le projet. Alors très rapidement, ce projet, c'est donc un ANR qui a duré 24 mois, qui a démarré en janvier 2013. Donc il s'est terminé par une journée de restitution en janvier dernier. Il rassemble quatre laboratoires, l'Institut de recherche et d'innovation, le LIRIS à Lyon, qui est le laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information, le laboratoire Imagine de l'INRIA, qui est plutôt sur la modélisation 3D, et les environnements narratifs, et le CERILAC, le Centre d'études de recherche interdisciplinaire, qui était dirigé par...
Nathalie. Enfin, moi, je parle
Noël.
Disons, c'est toi qui dirige le...
Donc, D'accord. Donc, quatre laboratoires. On voit déjà l'interdisciplinarité dans ce partenariat. Deux partenaires institutionnels de spectacle vivant, donc le Célestin Théâtre de Lyon et puis le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Et un industriel, Ubicas, qui a amené une solution de captation... de captation en temps réel. Alors, les objectifs étaient assez divers. Ils étaient à la fois techniques, scientifiques, culturels. Le premier objectif, malgré tout, c'était la constitution d'un corpus exhaustif de répétition de spectacles vivants. On a travaillé sur deux spectacles, le Chat sur un toit brûlant de Tennessee Williams, qui était mis en scène par Claudia Savisky, et Elena de Francesco Cavelli. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a voulu, en faisant cette captation exhaustive, on a introduit en fait un dispositif de captation, de tournage, sur les lieux mêmes de la répétition, en imaginant qu'avec un simple bouton record, hein, on allait pouvoir capter comme ça l'ensemble du travail de création, toute la progression du travail de création de ces deux spectacles. Associé à ce dispositif de captation, un dispositif d'annotation où on a voulu on a tenté en fait de reproduire un peu le fantasme de ce cahier de mise en scène, hein, ce cahier qui est tenu par l'assistant metteur en scène qui tout au long de la répétition lui aussi prend des notes sur le travail de création, ce qui va permettre au metteur en scène de retravailler, de revenir en arrière. Et c'est un petit peu ce paradigme là qu'on a voulu retrouver avec un dispositif d'annotation temps réel, annotation synchrone, tout au long de la répétition. Et donc ce corpus, finalement, on va le voir, sera constitué à la fois de plusieurs centaines d'heures de vidéos, mais aussi de milliers d'annotations posées le long de ces vidéos, comme autant d'index. Alors, un deuxième objectif qui était sur les enquêtes de public, sur les pratiques documentaires relatives au théâtre et à l'opéra. Donc là, on va retrouver la question de l'usage, qui, a été, qui est venu, qui s'est d'ailleurs largement réimposé en fait, dans le projet au fur et à mesure. Et puis, un troisième objectif, c'est l'élaboration de propositions d'exploitation et de valorisation des corpus constitués. Donc, on a là travaillé à différents scénarios d'usage de l'archive à travers, différents usages. Tu veux rajouter quelque chose ?
Un mot, c'est que enquête sur les pratiques documentaires et médiatiques, c'était l'idée que, au lieu, disons, d'imaginer qu'on allait avoir des utilisateurs qui seraient intéressés éventuellement par les captations annotées de, des répétitions, on est allé voir directement chez des amateurs assidus ou des fans, enfin, des gens qui étaient familiers du Théâtre des Célestins ou qui étaient aussi des jeunes ambassadeurs, en l'occurrence des étudiants fans d'opéra, quelles étaient déjà leurs pratiques documentaires et médiatiques. Donc, s'ils se mettaient aussi en relation avec le spectacle vivant autrement qu'en allant voir des spectacles.
Alors, sur les problématiques, je te laisse...
Voilà. Alors, donc, du coup, juste par rapport à... Vous avez vu cette, enfin, cette mosaïque de, d'objectifs, on le garde comme ça, parce que un des problèmes de ce travail en contexte interdisciplinaire avec un ancrage dans des structures culturelles, c'est que là, on ne pouvait pas faire tout comme il faut ou comme on aurait imaginé. C'est-à-dire, on commence par faire les enquêtes, et puis après, on trouve des spectacles, on les annote avec, en prenant en compte les résultats des études d'usage. Impossible, parce que c'est des opportunités aussi qui sont uniques, qu'on ne peut pas retrouver quand deux équipes artistiques acceptent qu'on les observe, qu'on annote, etc. Donc, c'est les faire les choses en même temps. Et dès le départ, il y a un caractère contingent aussi du programme de recherche qui est ancré dans une réalité où en aucun cas on peut dérouler un protocole, enfin, mais plutôt on crée un espace de construction commune, on va dire, de connaissances avec d'emblée une conscience des défauts, enfin, qu'on peut avoir par rapport, ou des écarts par rapport à un protocole. Et ça nous ramène, je trouve, à une condition qui a été observée aussi ou décrite dans les études de sciences. Quand les sciences de l'environnement se sont constituées, ça a été des recherches d'emblée qui ont été pluridisciplinaires sur projet dans des sites particuliers, avec un abandon des canons d'une scientificité, on va dire, orthodoxe, enfin, comme on parlait de l'objectivité, et tout de suite, en fait, grâce au mode de projet et à la création d'espaces temps un peu comme ça, complexe, réunissant des tas de gens et enfin, personne n'étant complètement raccord sur l'orthodoxie de ses propres pratiques, eh bien, des espaces-temps de projets qui sont des espaces pratiques, des espaces sensibles, en fait, où on se voit en train de travailler dans l'écart. Bon, ça me fait presque penser à la défamiliarisation, enfin, les choses qu'on a vues aujourd'hui. Alors, donc, voilà, donc ces hybridations, ces requalifications, ou cette expérimentation en cours du projet, où finalement, c'est la question des médiations, à la fois théorisées, avec un peu cette adhésion vague qu'on a tous, enfin, actuellement, je pense à une exploration des médiations qui constituent des mondes sociaux, des médiations matérielles, sociales, etc., etc., qui nous aident beaucoup dans un projet comme celui-ci. À la fois, elles sont décrites, puisque en fait, il s'agit de décrire le théâtre à travers aussi ce qui se passe dans les répétitions, et à la fois produites, puisqu'il s'agit de produire, justement, à la fois des matériaux, enfin, leur éditorialisation, etc. Donc, compte une rhétorique de la mise à disposition et de la diffusion de ressources, c'est d'emblée, en fait, on dégage des liens, j'ai mis complexes et délicats, enfin, entre des processus d'appropriation à l'intérieur même de l'espace du projet.
Alors, effectivement, ce schéma-là, qu'on voit assez mal, mais ce schéma montre un peu la galaxie des résultats qu'on a pu... qu'on a pu obtenir. Et on voit ces trois pôles, le corpus, les scénarios et les différentes enquêtes à travers un travail plus théorique, sur, notamment à travers les séminaires. Ce qui est intéressant de voir là, c'est que on a cherché d'abord à constituer un corpus et on s'est retrouvé en fait à constituer vraiment un matériau culturel qui venait nourrir différentes réflexions, que ce soit pour l'IRI, la création d'outils de contribution pour les institutions culturelles. Pour les institutions culturelles elles-mêmes, ça a été l'occasion de réfléchir, d'innover sur les usages de leur mémoire et sur leur responsabilité d'institution par rapport à leur mémoire. Et puis pour le CIRELAC, pourquoi ? Ça a été cette opportunité de comprendre comment des espaces se constituent à partir des médiations. Voilà, donc en ce sens, on est davantage en fait sur la constitution d'une archive, mais une archive en fait qui garde la trace de ces conditions de possibilité expérimentale. Ça a été quelque chose d'assez intéressant. Alors, on ne va pas détailler l'ensemble, évidemment, on n'aura pas le temps. Simplement, ce qu'on peut voir tout de suite sur ce schéma, là, c'est sur le corpus notamment, c'est cette continuité de la station de captation, donc vraiment de l'acte premier du projet, la captation et la notation, jusqu'à la publication de l'ensemble des données et leur éditorialisation de tout le corpus. On a en fait cherché à créer une continuité dans une continuité de données, une continuité informatique de la donnée à la fin.
Du coup, on peut peut-être même sauter les deux suivantes pour aller directement à...
De toute façon, on les voit pas.
Voilà. Et après.
Et après.
Encore après. À partir de là, en fait, de dessous. Parce que non, qu'ils nous gardent du temps, voilà.
Qu'on aille plus vite. Alors, ouais. Bon, voilà, cette continuité, justement, on la retrouve là. Ce qu'on a dû faire assurer cette continuité, puis assurer la constitution de ce corpus, ça a été de tourner autour de ces trois termes, hein, observer, décrire et catégoriser. Donc, observer, ça a été la mise en place de la captation. Décrire, ça a été cette annotation. Comment ces annotateurs qui étaient dédiés à cette tâche. Il faut savoir qu'il y avait les répétitions ont duré respectivement 6 semaines et 7 semaines, je crois, ou un peu plus. Il a fallu mettre en place un protocole de description. Et ce description amenant progressivement à une catégorisation des annotations. Au fur et à mesure des projets, dans cette réflexivité dont on parlait tout à l'heure, on s'est mis en fait à revenir en arrière et à réidentifier tous les moments de réflexion et de décision qu'on a eus pour mettre en place ce protocole d'observation, description et de catégorisation. Donc il y a eu d'abord un atelier initial interdisciplinaire et interprofessionnel. On a invité des metteurs en scène, on a invité des vidéastes, des personnes en sciences de l'éducation, qu'est-ce qu'on a eu d'autre, des personnes en sciences en études théâtrales. Ce premier atelier nous a donné quelques pistes d'indexation, mais finalement c'est vraiment pendant le processus d'annotation que on va dire les index et les catégories se sont progressivement émergés. Le deuxième processus qui a consisté à traiter les données et à proposer des visualisations sur ces données nous a permis également là, de revenir sur ces catégories et d'essayer d'en tirer du sens à travers des visualisations. Par la suite, donc on a mené des ateliers pour confronter un petit peu ces catégories qui étaient en fait des propositions très subjectives de l'annotateur, de les confronter à des usagers de l'archive, notamment des enseignants, mais tu en parleras peut-être tout à l'heure. Et puis, à nouveau, dans cette dynamique de réflexivité sur le projet, au fur et à mesure des interventions, des séminaires, notamment au travers d'une intervention au colloque international à l'Université de Rennes 2 sur les études théâtrales, sur l'archive du théâtre, à nouveau confronter notre démarche de projet avec des démarches davantage d'études théâtrales. Et là, ça a été des frictions intéressantes. Alors voilà un petit peu très rapidement l'archive. Là, ce qu'il faut, quelques données sur l'archive, ce qu'il faut retenir, c'est 240 heures sur Chat sur un toit brûlant, 177 sur Elena, donc ce qui donne en gros 420, et les annotations correspondantes, donc 3500 annotations pour le théâtre et presque 7000 pour l'opéra. Avec ici, ces différences de chiffres, c'est peut-être dû au casting, hein, au spectacle lui-même, à la mise en scène, mais c'est aussi dû évidemment à la double dimension de l'opéra, dimension musicologique et puis la dimension de mise en scène. Un slide sur les catégories qu'on hésite parfois à mettre parce que ce sont des catégories tout à fait subjectives, donc qui vraiment appartiennent d'une part au spectacle qui a été annoté, mais qui appartiennent surtout à l'annotateur. Et dans sa recherche de catégorisation, c'est-à-dire de faire émerger des récurrences, il y a évidemment eu des choix tout à fait subjectifs. Tu veux dire quelque chose là-dessus ?
Non, on peut continuer.
On continue. Ici, on a une visualisation proposée de l'archive. Ici, Elena. Je vous l'explique très rapidement. Alors, on ne la voit pas très bien, mais très rapidement, en abscisse, on a les actes et les scènes de l'opéra. Chaque unité est une scène. Et puis en ordonnée, on a les jours de répétition, premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à la fin. Et on propose donc une visualisation de la distribution des répétitions dans le temps. Donc on a ce qui nous permet en fait d'avoir un premier aperçu de la façon dont les répétitions se sont déroulées. Alors ici, avec de manière très marquée pour l'opéra, parce que pour des questions budgétaires, les répétitions sont extrêmement planifiées, mais on aurait eu une toute autre visualisation pour le théâtre, où au contraire, là, le travail de création est beaucoup plus lâche et beaucoup plus en réaction avec ce qui se passe réellement sur le plateau pendant la répétition. Donc, voilà, on a une visualisation en fait de la progression de la création. Alors, on aurait pu pousser cette représentation un peu plus loin, puisqu'on a, en identifiant, alors je me rends compte, je vais peut-être présenter ce slide avant, celui-là, voilà. Je vous présente rapidement la modélisation des données, la structure des données, qui est assez simple en fait, hein, la manière dont les annotations ont été posées. On a considéré que une session de travail constituait en gros une journée ou une demi-journée de travail, et dans cette session, on avait une alternance de moments de performance et de moments de discussion. Donc les performances où les comédiens vraiment étaient sur scène et jouaient, et des discussions, ces moments où le metteur en scène intervenait pour discuter, refaire, etc. Donc cette alternance-là, qui était à nouveau très subjective comme anticipation de la façon dont les choses allaient être travaillées, a fonctionné à la fois pour l'opéra et pour cette pièce de théâtre, mais n'aurait certainement pas fonctionné pour d'autres mises en scène ou d'autres travails de création. Ces chapitres de performance et de discussion, hein, donc, que vous voyez ici en couleur indéterminée, en certains roses, comportaient un certain nombre de métadonnées qui nous ont permis ensuite de les retrouver, donc des index. Et par-dessus cette alternance de chapitres et de chapitres de performance et de discussion, des annotations catégorisées, donc c'est là où les catégories ont émergé, des annotations catégorisées que l'annotateur posait au fur et à mesure de la répétition, et cette fois-ci avec une certaine dose d'interprétation, donc de description d'une part, mais aussi d'interprétation.
On peut aller à la plateforme peut-être directement.
Alors la plateforme, celle-ci. Alors ici, ouais, on va aller rapidement, mais c'est pour vous montrer le dispositif qui a été mis en place au-dessus du corpus en ligne. Donc d'abord la plateforme Ligne de Temps de l'IRI, qui a été évidemment adaptée spécifiquement pour ces données et pour cette modélisation de données. Et à partir de cette plateforme ligne de temps, un moteur de recherche, un player augmenté qui permettait d'articuler la vidéo avec l'ensemble des métadonnées synchronisées et également le texte, la synchronisation du texte de théâtre. C'est-à-dire que à n'importe quel moment de la répétition, on était capable de retrouver, grâce aux métadonnées, grâce aux index posés par l'annotateur, on était capable de retrouver l'endroit précis du texte qui était en train d'être répété. Cette plateforme est équipée d'une API qui permettait, qui a permis un portail Open Data, donc on a vraiment exposé l'ensemble des données en Open Data, ce qui a permis notamment à Oliris de développer des démonstrateurs à partir de ce portail, à partir de cette API.
Peut-être là, disons, parmi les moments importants du projet, donc on peut mettre la masterclass ou l'autre. Enfin, en fait, on n'a pas attendu donc de voir s'il y avait des usagers, enfin chez les spectateurs, etc., etc. D'emblée, dans le périmètre de ce projet, il y en a eu. Qui sont apparus et par exemple les chanteurs allaient voir régulièrement l'annotateur pour essayer de se réécouter, etc., etc. Donc ça a été les premiers usagers, enfin finalement c'est bien normal. Et donc plutôt que d'imaginer après comment ça peut être en ligne et après comment ça peut être diffusé, ben, tout de suite il y a eu comme une grotte, un petit espace qui s'est créé à l'intérieur du projet où est apparue l'idée d'une application d'aide à la création pour les chanteurs. Pourquoi attendre quand tout sera fini et que tout sera en ligne directement? L'usage est là grâce au fait, au contexte de ce programme avec cet ancrage dans un espace-temps aussi qui est vaste, qui comprend plein de gens qui sont intéressés aussi par le retour. De même...
C'est vraiment... pendant la constitution de l'archive, qu'on a tout de suite pensé, donc c'est purement un travail de design hein, ici, ça a été une série de maquettes complètes, hein, une application complète qui a été pensée, mais qui n'a pas été développée. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que c'est pendant la constitution de l'archive, pendant la captation, qu'on a commencé à imaginer des usages. Et là, on a un raccourcissement du temps, hein, en essayant de penser immédiatement à la fois l'archive et ses médiations.
Voilà. Et de même, je pense que les outils de visualisation que tu as présentés, en fait, ont joué aussi un rôle d'objet frontière, enfin, qu'il y a dans certains programmes interdisciplinaires, en fait, où du coup, ils ont trouvé des usages un peu indépendants, comme si c'était des médiations qui s'autonomisaient et qui nous servaient aussi à nous représenter tous le processus. Alors, en fait, il y a eu la masterclass, on peut peut-être la mettre. Enfin, c'est juste parce que du coup dans cette idée d'un protocole enfin, qui se modifie et qui se niche dans l'espace-temps enfin, du projet et ben, au Festival d'art lyrique d'Aix ils avaient déjà le projet d'archiver par contre en fait, des masterclass enfin, musicales de chant lyrique et en fait du coup bon, ben, pendant le projet il y a eu l'idée de connecter cette envie de constituer des archives avec le programme qui était en cours. Donc là encore, une forme de braconnage par rapport à l'idée initiale. Du coup, on va aller très vite parce que je crois qu'on arrive pratiquement au bout. Donc on va pratiquement conclure, je pense. Mais on va aller tout à la fin dans le démonstrateur parce qu'il y a eu plein de bon, d'enquêtes qui ont été faites auprès des fans, des amateurs, des professeurs. Et juste en 30 secondes, on s'est aperçu de l'énorme différence qu'il y avait entre les pratiques médiatiques des amateurs d'opéra et les pratiques médiatiques des amateurs de théâtre, en fait, où les amateurs de théâtre, en fait, c'est pénalisant pour toute une série de spectateurs d'avoir à se dire qu'il y a un standard qui va consister à devoir aller voir ailleurs, enfin sur le web ou à se former, etc. Ça doit être au théâtre que ça se passe, alors que ce n'est pas du tout le cas pour les amateurs d'opéra, en fait, qui ont ben, l'habitude de regarder avant, de s'échanger des tas de choses. Donc, du coup, pour pour finir et pour laisser la place à la discussion, on va dire, enfin, on a différencié aussi, et pour le théâtre, on a conçu finalement des démonstrateurs, là, enfin bon, et sont entrés dans le périmètre du projet des professeurs qui sont des expérimentateurs de toute façon. Bon, du coup, c'est pas auprès, pareil, c'est pas auprès des spectateurs ni des fans, mais c'est auprès de professeurs innovateurs, expérimentateurs, à la passeur culturelle, enfin, ayant un goût pour l'innovation tous azimuts, que on a continué à travailler, enfin, sur les interfaces et sur les catégories d'annotation, etc., etc., dans la perspective de scénarios qu'ils pourraient faire eux-mêmes. Et puis, ben c'est fini. Enfin, voilà. Finalement, enfin bon, pour conclure, mais c'est juste des séries de questions. Enfin, je dirais, on est amené, on a eu des résultats qui nous ont beaucoup appris chacun dans nos domaines, je pense. Mais actuellement, enfin, c'est le retour quand même sur cet espace du projet, sur les grottes qui s'y sont constituées, sur les usages qu'on a eus, les différents systèmes de visualisation, sur les personnes qui se sont agrégées comme en quelque sorte chercheurs amateurs, comme ces professeurs qu'on a eus. C'est là-dessus qu'on est en train de revenir pour se construire ensemble une représentation aussi de ce que nous a fait le projet et ses médiations entre nous. Donc, voilà.
Merci beaucoup. Bien, et bien, comme vous y invitez Joël, nous avons encore un petit peu de temps pour des questions. Si vous avez encore l'énergie, la force, oui.
Oui, donc j'étais à la restitution de spectacle en ligne.
Ah oui, c'est vrai.
Nous sommes intéressés, mais dire nous, on a un projet de traduction multilingue au théâtre et avec portage donc, sur des outils lunettes augmentées ou smartphones pour les spectateurs. Et là, on a du mal à monter notre projet parce qu'on se rend compte qu'effectivement, le monde du théâtre est assez fermé, assez technophone, mais on a franchement l'impression que l'opéra, c'est beaucoup plus ouvert. Donc, ce qui nous a permis de voir d'ailleurs les équipes d'Imagine, on a un peu discuté avec eux, mais bon, ils sont plus effectivement sur les représentations visuelles et le suivi de ce qui était enregistré au niveau du vocal était mineur par rapport à la présentation. Néanmoins, ça pourrait être pour le développement de notre projet, ça pourrait être intéressant qu'on reste en rapport avec
eux. Oui, d'accord. Alors, en fait, je ne dirais pas que c'est fermé le théâtre et ouvert l'opéra. Je dirais que vraiment, on sent la spécificité des espaces. On sent où est-ce que les espaces peuvent se densifier. Par exemple, le hall de l'opéra qui peut jouer un rôle vraiment beaucoup plus grand qu'il n'est actuellement, où il se passe beaucoup de choses, où les sociabilités, elles peuvent être... Et ce n'est pas une question, je pense, de milieu ouvert et fermé. C'est vraiment là, enfin... le projet nous fait toucher du doigt cette spécificité des espaces de pratique sensibles et culturels, enfin aussi ces frontières, enfin, et nous fait quand même, je pense, quitter l'idée que l'ouverture passerait par la diffusion sur d'autres supports. Enfin, ça nous fait en quelque sorte toucher du doigt les possibilité d'amplification, que ce soit à la maison, que ce soit à l'opéra, que ce soit dans la classe, etc.
Merci. Oui, Michel. Donc,
peut-être votre intervention m'amène à interroger le troisième terme de notre usage des patrimoines numérisés, celui de patrimoine, qu'on n'a pas beaucoup abordé aujourd'hui. Je l'aborde à partir de votre intervention, mais c'est une question plus générale. On est d'accord sur le fait que la pièce de Tennessee Williams fait partie du patrimoine, sa représentation aussi. Est-ce que les 242 heures de répétition sont une archive? Ça, c'est certain. Est-ce qu'elles font partie du patrimoine? Je précise bien que c'est une question générale. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question pour les milliards de lettres échangées pendant la guerre de 14, pour tous les projets dont on a parlé jusqu'à maintenant. La question est d'autant plus cruciale que nous avons aujourd'hui les moyens d'accumuler ces archives. YouTube reçoit 1 heure de vidéo par seconde. Et nous avons tous dans la poche un appareil photo caméra qui nous permet d'enregistrer, par exemple, ces répétitions. Je pense qu'il doit y avoir, vous signaliez la pratique locale des comédiens eux-mêmes qui ont utilisé ces enregistrements. Je pense qu'à l'heure actuelle, beaucoup de comédiens ou de personnes du spectacle font des enregistrements, bon, plus ou moins de qualité, mais simplement pour avoir une mémoire de travail de cette manière-là. Donc la question, c'est un peu celle du patrimoine et de la conservation et de la transmission. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'ériger en patrimoine quelque chose qui jusqu'à maintenant était perdu, puisque c'est le cas pour les répétitions? Est-ce que c'est une autre utilisation qu'une utilisation patrimoniale?
Alors, juste en réponse un peu indirecte, les deux structures qui sont rentrées dans le projet ont toutes les deux un intérêt patrimonial. Donc, enfin, ça, il y a un lien mais indirect. Le Théâtre des Célestins, un site mémoire en fait, et veut créer une articulation. Mais ça ne sera pas sur la totalité du corpus. Ah ouais. Voilà. En fait, il y a ce fameux site mémoire qui et de la même manière, le Festival d'Aix a en projet un musée. Donc les deux ont des perspectives ou des intérêts patrimoniaux. Enfin, voilà. Mais il n'y a pas directement l'idée qu'il va s'agir d'un patrimoine. Il y a l'idée qu'avec ce système de description, d'annotation, de catégorisation, enfin de conception de scénario à des fins professionnelles, ou c'est plutôt ça qui, à terme, enfin, on ouvre en quelque sorte des regards sur des pratiques, sur les arrière-plans de la création, sur les conditions de production des œuvres, etc., qui, dont on le sait, à terme, feront partie de ce qu'on considérera comme patrimoine, mais nous, on n'est pas encore... On s'inscrit, je pense, plus dans la tendance à faire remonter une conception patrimoniale la production des œuvres, mais sans forcer le trait, je dirais. Enfin, pour le coup...
Mais de toute façon, c'est vrai qu'on a... C'est d'abord un projet corpus ANR, où l'objectif de l'ANR sur cet appel était vraiment d'inciter ou d'encourager des chercheurs à constituer des corpus. Et personne dans notre projet n'était en étude théâtrale. Donc il s'agissait, on a imaginé au départ, constituer un corpus à destination peut-être d'études théâtrales, pour faire de la génétique du spectacle, par exemple. Et c'était un usage possible de cette archive. Et je ne l'appelle plus corpus, puisqu'il est devenu autre chose au fur et à mesure. Son statut a changé au fur et à mesure du projet. Et je crois même que le statut de l'archive, là, effectivement, a glissé. Il n'est plus patrimonial. Il est une archive de ressources. De ressources, un matériau que des professeurs de français pourraient utiliser, que des chercheurs en études théâtrales pourraient utiliser, que des institutions culturelles pourraient utiliser pour faire de la médiation, etc. Effectivement, je ne suis pas certain qu'il s'agisse là de créer de la mémoire, mais peut-être plus de créer de la ressource.
Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai une petite question qui est de curiosité sémantique. C'est un peu le défaut du métier. Je me demandais pourquoi vous aviez choisi ce mot d'annotation, qui est un mot de l'édition critique, en fait. Est-ce que c'est un terme usuel?
Est-ce qu'il est choisi
pour sa neutralité?
Non, au contraire, il est vraiment hérité là, des travaux de Liri. On n'est pas sûr de la notation, hein, qui poserait peut-être des index beaucoup plus descriptifs. Le terme d'annotation, là, c'est directement lié à nos dispositifs d'indexation, mais qui ont toujours été pensés pour laisser une place à l'interprétation. Et c'est là où on parle davantage d'annotation, donc de cette capacité de lecture savante, d'écriture, d'épi-écriture, et non pas simplement d'index descriptif ou de métadonnées descriptives qui sont des simples points d'entrée. Avec la notation, il y a toujours cette idée de pouvoir créer des index, c'est-à-dire des points d'entrée sur une ressource, une archive, mais en introduisant déjà les possibilités de l'interprétation. Donc le choix du terme annotation, je pense, là, est important.
Merci.